Chapitre 59. En fin d'après-midi, alors que la colonne progressait depuis un moment dans la vallée, le terrain devint bien plus accidenté, ce qui était jusque-là des crevasses se transformant en profonds ravins. Puis les voyageurs s'engagèrent dans l'étroit défilé repéré quelques heures plus tôt par Richard. Entre les parois rocheuses et sous un crachin continuel, on se serait déjà cru en pleine nuit. Étudiant le canyon, Richard constata que les murailles de chaque côté se terminaient en arrondi, un peu comme si elles étaient dotées d'un auvent naturel. Cette configuration, qu'il n'avait pas pu repérer de loin et d'en haut, les rendait pratiquement impossibles à escalader. Bref, une fois dans le défilé, ou plutôt l'enfilade de canyon, car c'était plus de ça qu'il s'agissait, plus moyen d'en sortir. Soit on le suivait jusqu'au bout, soit on rebroussait chemin. Les lauriers roses de Saavedra remplissaient très bien leur fonction, en espérant qu'ils ne soient pas trop toxiques cependant. Le défilé principal, celui qui menait à un véritable labyrinthe de canyon, se révéla étonnamment large. Du haut de la butte, c'était bien entendu impossible à voir. Tout comme la taille incroyable du site. Par endroits, les falaises faisaient plusieurs centaines de pieds de haut, et certaines devaient même dépasser les 1000. Presque partout, leurs sommets s'inclinaient les uns vers les autres, composant de sinistres toitures naturelles qui, en quelques endroits, ressemblaient à des ponts tant ils étaient bord à bord. Richard remarqua que des oiseaux voletaient autour de ces passerelles. Logique, car à de telles hauteurs, les nids étaient en général en sécurité. Mais la présence d'oiseaux dans les airs et au niveau du sol, de campagnols ou de myriapodes, impliquait aussi que des prédateurs rôdaient un peu partout. Au fond des canyons, la végétation était similaire à celle de la vallée, mais en beaucoup moins luxuriante. La lumière du jour étant bloquée par les falaises, les arbres poussaient beaucoup plus lentement. Ils étaient aussi beaucoup plus espacés, laissant clairement apercevoir la roche des versants entre leurs troncs. Cela dit, un épais tapis d'aiguilles couvrait le sol, rendant la progression agréable et relativement silencieuse. Par endroits, les passages se faisaient très étroits, une végétation entrelacée les envahissant. Même dans les canyons les plus exigus, des érables parvenaient à s'accrocher à la roche et menaçaient d'étouffer de jeunes sapins qui tentaient de lutter pour leur survie malgré le déséquilibre des forces. À l'avant de la colonne, les éclaireurs écartaient les arbustes pour faciliter les choses à leurs compagnons. Entre les feuilles et les aiguilles, une sorte de compost très glissant tapissait le sol. Dans les coins que le soleil n'atteignait presque jamais, l'odeur de moisissure montait aux narines. Dès que le terrain devenait plus ou moins plat, des mares, survolées par des insectes bourdonnants, se formaient dans les moindres dépressions. Attirés par l'humidité, de gros escargots tournaient autour de ces points d'eau. Les versants suintaient en permanence, comme en témoignaient les longues traînées de mousse qui maculaient la roche. Par endroits, quand la configuration du versant le permettait, il se formait de véritables cascades qui dégringolaient souvent de plusieurs centaines de pieds de haut. Plus rarement, ces chutes tombaient d'une telle altitude que leurs eaux se transformaient en brume avant de toucher le sol. Pour les voyageurs, humidité était synonyme de glissade. En plus des autres difficultés du terrain, cet inconvénient permanent, et à l'occasion terriblement dangereux, puisa considérablement dans les forces de Richard et de ses compagnons. S'il avait eu le choix, le sorcier n'aurait jamais opté pour un itinéraire pareil. Dans un espace si confiné, tout danger, il le savait, était multiplié par deux. Et s'il finissait quand même par se retrouver dans un cul-de-sac, rebrousser chemin et chercher un autre passage prendrait un temps fou. Un temps que Richard et Callan n'avaient plus. Le compte à rebours, inéluctable, les rapprochait à chaque instant de la mort. Ce chemin était le bon choix étant donné le contexte. Mais sur un terrain pareil, en cas d'attaque, on n'avait nulle part où fuir et fort peu d'endroits où se cacher. Le point le plus négatif aux yeux de Richard. Car tomber sous les griffes d'un prédateur ou mourir à cause de la souillure revenait au même. Une fois mort, on le restait. Maigre consolation, entre les versants inclinés et la végétation, les prédateurs ailés de la veille n'auraient pas la partie facile pour s'en prendre à la colonne. Une main en visière pour se protéger des eaux d'une cascade, Richard sonda les divers défilés qui s'ouvraient devant lui. Certaines parois, remarqua-t-il, menaçaient de s'effondrer, Par endroits, elle n'était plus entière, laissant des trous entre les différents corridors de l'immense labyrinthe de pierre. En avançant, ces orifices devinrent de plus en plus grands, formant même de grandes cavernes. Ailleurs, c'était plutôt des tunnels qui conduisaient vers un autre couloir naturel ou au pied d'une falaise. Les fragments de roches qui jonchaient le sol compliquèrent encore la progression de la colonne. Au fil du temps, la pierre humide s'effritait, puis elle se détachait des versants par larges pans. Dans ces éboulis, avancer se révéla particulièrement difficile, car chaque pas pouvait générer un glissement de terrain aux conséquences imprévisibles. Richard retint Callan par le bras juste avant qu'elle marche sur un serpent vert, presque invisible, sur son tapis de mousse. Abominant les reptiles, l'inquisitrice contourna celui-ci avec un soupir de soulagement. Derrière elle, les hommes se firent passer une consigne de prudence. Richard n'aurait su dire si le serpent était venimeux, mais en matière de poison, Callan et lui avaient été servis et il n'en demandait pas plus. La colonne arriva soudain devant un éventail de tunnels sombres et de grottes. Des fausses grottes en réalité, car elles connectaient les défilés entre eux, comme les voyageurs purent s'en apercevoir lorsqu'ils en traversèrent plusieurs. À l'entrée d'une de ces grottes en trompe-l'œil, Richard vit une silhouette noire planer dans l'obscurité. Trop grande pour être une chauve-souris, la créature avait cependant la même façon de voler. Le sang de Richard se glaça dans ses veines quand il leva les yeux, regardant au-dessus de la tête des éclaireurs. La voûte entière pulsait de vie, exactement comme dans une grotte truffée de chauves-souris. En s'agitant, les prédateurs presque invisibles créèrent un infime courant d'air qui charria jusqu'aux narines de Richard une infecte puanteur d'excréments. Le sourcier se plaqua un index sur les lèvres afin d'indiquer aux hommes qui le suivaient de faire le moins de bruit possible. Puis il leur fit signe de rebrousser chemin. À cet instant, les éclaireurs firent volte-face et se mirent à courir en criant à tout le monde de fuir. Même s'ils ne savaient pas ce que ces hommes avaient vu, Richard obéit sans poser de questions. Quand des soldats de ce calibre filaient ainsi, ils avaient d'excellentes raisons. Entraînant Callan avec lui, Richard fonça hors de la grotte.